Et il est 19h22.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saintès.
Cinquième vague en cours et variant Omicron. Quand ça veut pas, ça veut pas. Et vous avouerez avec nous qu'il y a des temporalités qui tombent parfois mal. C'est précisément alors que l'on commence à s'inquiéter de ce nouveau variant que le protocole dans les écoles change pour éviter les multiples fermetures. On comprend bien. Mais désormais, les enfants négatifs dans une classe où un cas de Covid a été détecté vont pouvoir rester en classe pendant que les autres vont rester chez eux. On verra si ça tient. Les départements testent depuis le mois d'octobre, ont des avis très mitigé. Dans les entreprises aussi, le protocole change un peu. La preuve, nous avons remis les masques en entreprise, en studio, nous ici. Et sinon, pas de retour au télétravail, si ce n'est une facilitation. Les fêtes, les pots entre collègues, le face-à-face à la cantine sont désormais plus que déconseillés. Dans le même temps, le G7 demande des mesures d'urgence face à ce variant Omicron qui sème la panique et isole toute l'Afrique australe et nous interroge à nous sur la conduite à tenir, qui nous interroge surtout sur l'efficacité du vaccin. Une réponse qu'il faudra avoir très très vite, ce qui éviterait à tout le monde de se barricader ou de recommencer à faire de l'ultra-crépidarianisme, c'est-à-dire de parler de ce qu'on ne connaît pas, mais avec beaucoup d'aplomb. Essayons justement de faire le tour de ce que nous savons vraiment ce soir et comment ça marche dans les écoles ou ailleurs. C'est le téléphone sonne et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et le premier ce soir, c'est vous, Charles. Soyez le bienvenu. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous écoute, merci, Charles.
Merci de prendre mon témoignage et merci pour la qualité de vos émissions habituelles. Je me permets de vous appeler ce soir puisque je vais tenter de vous expliquer en toute objectivité le cas dans lequel ma fille se trouve, puisqu'elle est scolarisée en CM2 à Paris. Et dès la semaine dernière, il y a eu dans la classe en face, c'est-à-dire le CM2A, puisqu'elle est en CM2B, un cas Covid. Ce matin même, j'ai amené ma fille à l'école et j'apprends à la sortie d'école à 16h30 que dans la classe d'en face, il y a 3 cas Covid, donc cette classe va être fermée dès ce soir. Et il y a un cas Covid dans sa classe à elle, que j'apprends ça à partir de 18h via un mail de l'école. Et donc nous sommes tous conviés à aller faire un test à nos enfants pour qu'ils puissent, oui ou non, revenir à l'école demain matin. Mmh. Ma grande, à défaut de stupéfaction, en tout cas, la grande question que je me suis posée était de savoir quel était l'intérêt de ce test, puisque ces enfants qui mangeaient encore à midi ensemble, mélangés avec l'autre classe qui va être fermée, puisqu'il y a déjà 3 cas Covid, ils bouffaient ensemble encore à midi au réfectoire sans masque, et on nous demande à 18h de faire un test pour savoir si oui ou non demain nos enfants seront positifs ou négatifs. Mmh. Je viens de faire le test, on s'est caillé 45 minutes à 2 degrés dans la rue devant une pharmacie, et bien évidemment ce test est négatif, puisque tout le monde connaît et s'est renseigné par rapport au délai d'incubation.
Ouais,
et
donc, J+0. Ouais.
J+0, bon, mort de rire. Donc, je viens d'avoir le test dès lors que France Inter m'a rappelé et ma vie est négative. Mmh.
Donc, demain, vous l'emmenez quand même à l'école, du coup. Enfin, théoriquement, vous pouvez l'emmener à l'école.
Théoriquement. Mmh. Après, professionnellement, si vous voulez, moi, j'ai des contraintes. Je suis, à défaut d'être sceptique, je suis quand même très...
Sceptique.
Oui, enfin totalement flippé par cette situation, parce que avec les dernières décisions gouvernementales et ce qu'on a pu entendre jeudi encore, je crois, par Blanquer, si on suit la direction ou en tout cas ce qu'on nous conseille, je peux amener ma fille demain à l'école, sachant que son test aura été totalement caduque et que en avant des histoires avec la propagation du virus. Je suis en essayant de garder vraiment une forme d'objectivité, je me suis permis ce soir d'appeler France Inter parce que je me retrouve quelque peu consterné par ce genre.
On sent bien que vous êtes quelque part entre consterné et dubitatif, on va dire ça comme ça, Charles. Et on va essayer. Alors je ne sais pas si on peut. On va prendre un avis qui vient de l'Éducation nationale ou en tout cas ses syndicats, mais on va demander aussi à un professeur de médecine ce qu'il pense de ce nouveau protocole. Et surtout, encore une fois, parce que c'est là que peut-être les choses sont un peu brouillées. On est dans une période de Delta, d'accord, mais surtout d'Omicron qui arrive. C'est ce qui rend les choses très très compliquées. pour discuter ensemble jusqu'à 20h ce soir. Ghislaine David est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes co-secrétaire générale et porte-parole du SNUP. Donc Ghislaine plutôt que Ghislaine, pardon,
oui.
Parce que chaque fois j'hésite entre les deux. Ghislaine. Ghislaine David, co-secrétaire générale et porte-parole du SNUP FSU. Nous avons Carole Zerbide qui est avec nous également. Vous êtes professeur, bonsoir, proviseur, adjointe au lycée Voltaire à Paris, membre de l'exécutif national du SNPDEN UNSA. Et puis Antoine Flao est là également. Bonsoir Monsieur Flao.
Bonsoir.
Vous êtes épidémiologiste, directeur de santé globale et professeur à la faculté de médecine de Genève. Ghislaine David d'abord, cette situation qui est celle de Charles, c'est le cas d'école parfait en fait.
Tout à fait.
Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'il fait Charles avec sa fille?
Eh bien effectivement, c'est tout le problème de ce protocole qui va permettre de tester les enfants dès qu'il y a un cas positif. Donc les parents seront amenés à faire tester leur enfant, mais à J0 on peut être négatif et à J+2 on peut être positif. Et les enfants ne seront pas retestés. Alors on demande aux parents qui le souhaitent, c'est-à-dire que c'est pas obligatoire de retester les enfants à J+7. Hein, le protocole ne l'impose pas. Et puis J+7, on peut forcément être positif depuis un certain temps. Donc c'est vraiment ce qui nous fait nous demander à Jean-Michel Blanquer aujourd'hui. Hein, on lui a écrit
pour revenir en arrière,
d'arrêter ce protocole parce que vous le dites, on est dans une période de vague épidémique très très forte. Hein, les derniers taux de contamination dans les écoles étaient très importants vendredi dernier. On a multiplié par 100% les cas positifs dans les classes et on voit aujourd'hui, on a eu beaucoup de retours d'enseignants qui ou du directeur ou directrice d'école qui annonçaient des cas positifs. Donc on est vraiment en difficulté par rapport à ça parce que on imagine que les écoles seront des vrais passoires dans quelques temps et on a une vague qui est très très forte et qu'on n'avait jamais vu encore comme ça dans l'éducation nationale et dans nos écoles. Donc c'est très inquiétant.
Est-ce que vous conseillez plutôt aux parents comme Charles de garder les enfants à 7 jours, ce qui implique aussi d'autres difficultés, hein. Du jour au lendemain, c'est compliqué d'avoir la petite à la maison et les deux parents qui travaillent.
Voilà, on a bien compris que ce protocole, il avait été aussi acté pour ça, hein, parce que c'est une difficulté pour les parents et pour les employeurs de laisser les parents à la maison garder les enfants. Il faut vraiment que le gouvernement prenne des mesures pour que les parents puissent les garder à la maison. Parce que on va protéger la société et l'école et la société en gardant les enfants à la maison 7 jours, surtout en période de vagues aussi fortes.
C'est
pas
bien
le moment en fait, de mettre en place ce type de protocole.
J'aimerais bien l'avis médical là-dessus, Antoine Flao. Donc en plus, vous avez le recul, vous, depuis votre faculté de Genève. Vous n'êtes pas chez nous, donc vous n'avez aucune forme de parti pris de rien en la matière. Est-ce que c'est le moment, très honnêtement, quand on est en grosse vague Delta, là pour le coup, cinquième vague, on le sait en France, et qu'il y a cette histoire d'Omicron qui est en train d'arriver. Est-ce qu'on peut faire confiance à des tests J+0 et laisser les enfants en cours? Est-ce que ça vous paraît cohérent?
Alors, il m'appartient en effet pas de juger la cohérence des décisions
Absolument.
Politiques. Mais en revanche, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que les 0-9 ans ont la plus grosse augmentation du taux d'incidence en une semaine en France, plus 92%. Les 10-19 ans suivent de très près, à plus 78%, alors que les autres classes d'âge sont autour de plus 50%. Il y a une augmentation partout, mais il y a une augmentation qui est pratiquement du double chez les petits qui sont à l'école primaire. Donc il y a un vrai moteur de cette vague pandémique qui est à l'école. Et donc il faut sécuriser les écoles, et c'est vrai que tester, c'est une bonne idée, mais il faudrait probablement tester très systématiquement tous les enfants en les faisant cracher dans un gobelet commun, en poulant une classe à chaque fois, et pour vraiment pouvoir être très systématique dans les tests et très régulier. Parce que le J+0 dont vous parlez me choque moins peut-être que vous, parce que en réalité, on ne sait pas quel est le zéro, le temps zéro. C'est-à-dire que quand une personne vient et été testé, probablement le virus a circulé dans la classe, dans l'école, dans la sphère de cet enfant depuis quelques jours déjà. Donc il est possible que ce soit une mesure qui permette de ramener quelques cas positifs, mais je pense que c'est surtout une dynamique de test beaucoup plus massive dans les écoles et beaucoup plus fréquente, en fait, peut-être deux fois par semaine. Les Britanniques ont tenté cela avec beaucoup de succès quand ils l'ont fait, donc ça peut être une mesure tout à fait intéressante.
Et vous le dites, Antoine Flao, ça l'hiver aussi, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de passer
surtout,
par...
Surtout, je dirais.
Voilà, surtout, on n'est pas obligé de passer par les couvillons.
Ah non, il faut arrêter avec ces écouvillons nasopharyngés chez des tout petits. Je pense que c'est très inconfortable. Et en fait, quand on est contagieux, malheureusement, on crache du virus dans sa salive. Donc il faut faire des PCR, c'est vrai, mais des PCR salivaires, oui.
Carole Zerbitte, je ne vous ai pas oublié. Je voudrais qu'on écoute Thomas d'abord. Bonsoir Thomas.
Bonsoir.
On vous écoute.
Alors en fait, je voulais dire beaucoup de choses qu'a dit Charles. Effectivement, moi j'ai vraiment du mal à comprendre. Alors je suis directeur d'école, donc je suis aussi assez concerné par l'histoire. Et il y a une chose donc du coup qu'on n'a pas abordée dans le témoignage de Charles, c'est aussi du coup la vie des directeurs d'école. C'est-à-dire que c'est un travail qu'on va devoir assumer nous, dans le cas où ça devrait se passer. Les informations qui sont du secret médical, comment on va savoir qui a le virus, qui ne l'a pas. Et puis, à mon avis, on va créer des chaînes de contamination. C'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'un enfant qui sera négatif, le lendemain sera positif. Il aura contaminé d'autres élèves. Et en plus, il y a la notion des fratries qu'on n'aborde pas. Mais déjà, fermer une classe, nous trouvons ça limitatif. Parce qu'une fratrie, dans des groupes de brassage différents, ça crée aussi. Donc, c'était fermé très vite qui faisait qu'on avait à peu près limité les choses. Et puis, il y a aussi un point du côté école qu'on n'a pas abordé, c'est où est l'instit là-dedans, puisqu'il va y avoir du distanciel pour les élèves à la maison, du présentiel pour les élèves qui seront en classe. Nous, on est où? Alors, je sais que pour beaucoup de gens, on travaille pas beaucoup, mais je peux vous assurer que si. Et donc, on peut pas vraiment se dédoubler. Donc, pour nous, c'est une énième provocation, quoi. On dit que le ministre de l'Intérieur, c'est le premier flic de France. Nous, on a bien le dernier prof de France, ouais, ça c'est sûr.
Là-dessus, Carole Zerbitte, vous êtes proviseure adjointe au lycée. Donc, effectivement, c'est pas pareil. Vous n'avez pas affaire à la même population. Vous avez des grands, dont un certain nombre sont vaccinés. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, justement, d'être, j'allais dire, rangé des voitures? Est-ce que vous vous dites, nous, on n'est pas du tout concernés par ça, ou au contraire, de toute façon, ça pointe aussi, parce que tous les enfants de cet âge ne sont pas vaccinés?
Alors, c'est vrai que la situation est différente dans le secondaire.
Absolument.
Puisque on a globalement 75%, je fais des chiffres nationaux, 75% d'élèves vaccinés, sauf une classe d'âge que sont les moins de 12 ans. Moi, je suis dans une cité scolaire, donc il y a aussi des élèves de 6e. Alors, on voit que la vague est là, puisqu'on a quelques élèves qui nous disent qu'ils sont positifs au Covid. On fait comme d'habitude, on recherche les cas contacts. En fait, nous, on est plutôt satisfaits du contact tracing plutôt que de la fermeture des classes. On préfère limiter les situations d'exclusion des élèves à la maison, de les faire travailler en hybride synchrone. Enfin, en tout cas, voilà, on préfère éviter le distanciel. On a déjà vécu 2 ans très chaotiques et on a vu les effets sur la scolarité des élèves, sur leur psychisme, sur leur socialisation. Donc nous, tant qu'on peut éviter la fermeture des classes, là, on est plutôt satisfait. Voilà.
Vous avez des élèves, Carole Zerbitte, qui se gardent tout seul malgré tout quand on est obligé de quitter la classe, ce qui fait une vraie différence.
Oui. Oui, voilà, c'est ça. Ils sont plus grands et ils peuvent effectivement être en autonomie chez eux. Oui, oui, bien sûr. Sauf peut-être les élèves de 6e. Voilà, là, c'est un petit peu différent.
Avec notamment chez les sixièmes d'ailleurs, puisque je vous tiens, qui ont deux autotests à la méso potentiellement, puisque les élèves de sixième ont parfois 11 ans et donc sont au-dessous de la ce qu'est aujourd'hui la limite vaccinale.
Voilà, ils ne sont pas vaccinés. Alors là, on distribue. Bon, on n'a pas encore eu les boîtes. Il y a eu des annonces, mais nous, on n'avons pas encore reçu les boîtes de tests. Donc, les élèves doivent faire 2 tests par semaine. Alors là, c'est un petit peu compliqué parce que c'est ce que disait le collègue, la directeur d'école tout à l'heure. Qui c'est qui traite ces tests? On les récupère parce que nous, on n'a pas à récupérer ces tests. Donc, on compte sur la responsabilité et le civisme des familles. En tout cas, on ne pourrait pas non plus contrôler. Voilà. Donc,
Guylaine David, j'entendais dans le témoignage de Thomas tout à l'heure. C'était Thomas, je me souviens plus de son prénom. Oui. Thomas. Effectivement, comment on fait dans les classes pour l'instant? En tout cas, est-ce qu'on sait comment on va faire entre? Je ne sais même pas quel est le terme qui a été employé à l'instant pour expliquer qu'on faisait cours en même temps qu'on est en distance. Qu'est-ce qui est prévu pour l'instant? Comment ça peut s'organiser?
On ne voit pas bien comment ça peut s'organiser puisque quand un enseignant enseignant à l'école primaire est en classe avec ses élèves, il ne peut pas se dédoubler, être à distance avec les élèves qui sont à la maison. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire parce qu'on ne peut pas faire les deux en même temps. On a demandé aussi à Jean-Michel Blanquer aujourd'hui de ne pas demander aux enseignants de faire les deux. Ça ne sera pas possible, c'est impossible. Là, on a beaucoup de remontées de collègues aujourd'hui qui nous disent mais là, on ne va pas s'en sortir. Et les directeurs et les directrices d'école sont aussi au premier plan pour organiser tout ça. Aujourd'hui, il y a eu des cas, il y a eu des difficultés parce que tout est flou dans le protocole pour le moment. Les notes arrivent progressivement dans les écoles, les notes d'application, et on ne sait pas trop aussi. Enfin, aujourd'hui, c'était compliqué pour savoir comment s'organiser. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas faire à la fois le distanciel et le présentiel, qu'il faudra favoriser le présentiel, puisque les enfants qui sont dans la classe, il faut bien s'en occuper. Donc, on ne pourra pas faire les deux, c'est évident.
Antoine Flao, à quoi on peut comparer cette vague-là, même sans parler de l'Omicron, mais simplement du Delta et de cette cinquième vague qui est la nôtre aujourd'hui? Je vous pose la question parce que nous faisons partie des pays et qui s'est enorgueilli de ne pas avoir fermé les écoles, en tout cas le moins longtemps possible. Et tous les médecins, y compris le médecin que vous êtes, disaient oui, ça peut être extrêmement préjudiciable pour les enfants. Et en même temps, on a l'impression qu'on est arrivé là avec cette cinquième vague et avec les enfants, vous nous avez cité des chiffres tout à l'heure, à des degrés qui rendent l'organisation nettement plus compliquée. Est-ce que vous diriez que c'est plus compliqué aujourd'hui avec cette vague-là que ça ne l'a été même finalement précédemment?
Alors, vis-à-vis des enfants, peut-être, en effet, ça semble plus compliqué parce que les enfants, notamment les enfants du primaire, sont les seuls à ne pas pouvoir être protégés par le vaccin. Et donc, quelque part, la transmission y est maximale dans ces écoles primaires. C'était un peu attendu. On s'attendait qu'à partir du moment où on vaccine tout le monde, sauf les enfants de l'âge primaire, on allait avoir une sorte de concentration de l'épidémie dans cette classe d'âge. Ce qui est peut-être un peu décevant et plus étonnant, c'est que le vaccin ne semble pas aussi efficace qu'on l'espérait sur la transmission, y compris chez les plus grands et chez les adultes, puisque l'on a quand même une vague très 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 forte. On voit aujourd'hui la vague en France est en train de démarrer. Elle a beaucoup de délais, de décalage par rapport à la vague allemande ou la vague néerlandaise, mais elle est déjà aujourd'hui supérieure à la vague de cet été, au sommet de la vague de cet été, et supérieure, elle commence à être supérieure à la vague du printemps dernier. Elle est en train de rejoindre la vague qui était la plus forte vague française, qui est celle du mois de novembre dernier. Donc on est, malgré la vaccination, dans un état qui est, vis-à-vis des contaminations, d'une très forte vague, notamment chez les enfants. Ce qu'il y a, c'est que le vaccin protège bien contre les formes graves et compliquées. Il y a donc moins d'hospitalisations et moins de décès, fort heureusement. Ce serait une hécatombe sinon. Mais on voit quand même que les enfants alimentent une vague qui va être très forte en amplitude d'ici quelques semaines en France, très probablement, si ça suit la même dynamique, et il n'y a aucune raison que ça ne la suive pas des Pays-Bas et de l'Allemagne. Et comme vous l'avez très bien dit, il ne s'agit pas du tout d'Omicron, il s'agit ici du variant Delta. Donc la première chose qu'il faudrait régler, c'est ce problème de la vague Delta. On pourra revenir, je ne sais pas si vous m'en donnerez l'occasion, mais sur quand même une protection qui manque dramatiquement, je dirais, en Europe aujourd'hui, et pas simplement en France, c'est la ventilation des écoles, des classes, et une ventilation qui soit monitorée, parce que ça ne s'agit pas simplement d'ouvrir les fenêtres, ça doit être difficile dans certaines régions de France en ce moment par ailleurs, mais une ventilation efficace, il n'y a pas eu un vrai plan d'investissement qui aurait permis de sécuriser les écoles et les classes de façon beaucoup plus satisfaisante.
On va y revenir, parce qu'effectivement, au-delà de la jauge de la classe et des élèves qui rentrent chez eux s'ils sont positifs ou qui restent, s'ils sont négatifs, il y a aussi effectivement des choses liées à la cantine dont j'aimerais qu'on reparle, effectivement aussi à la ventilation. Mais Xavier nous attend depuis plus de 20 minutes et je voudrais quand même qu'on l'écoute. Bonsoir Xavier.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à France Inter, bonsoir à tous. Du coup, je voulais vous poser une question par rapport aux variants. Que ce soit le Delta ou le Omicron, donc on se rend compte qu'ils sont plus contagieux que les premières souches du Covid auxquelles on a pu faire face. Et je voulais du coup avoir des précisions justement sur la contagiosité de ces variants. Savoir si du coup c'était pas au final bénéfique pour tout le monde d'y être en fait au contact, puisqu'en fait ça permettrait d'avoir une immunité collective, parce qu'on se rend compte que les variants n'amènent pas forcément peut-être de formes très très graves. Lié à tout ça, donc le vaccin pour tout le monde, si c'était possible, peut-être qu'on s'en sortira. On s'en sortira. Mmh. Et du coup, je voulais avoir des précisions par rapport à ça. C'était est-ce que c'est pas aussi un petit peu bénéfique pour nous tous de d'être au contact de ces variants?
Vieille question qui revient à chaque fois que celle de Xavier, Antoine Flao, qu'est-ce qu'on peut lui répondre?
Oui, c'est une très très bonne question parce qu'en effet, elle revient, c'est aussi un débat chez les scientifiques. Ce que l'on voit, c'est que déjà l'immunité, qu'elle soit naturelle ou conférée par le vaccin, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas excellente sur la transmission du virus. C'est-à-dire que malheureusement, les lignes sont franchies. Que vous ayez fait un Covid ou que vous soyez doublement vacciné, vous pouvez encore attraper le Covid. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle, mais c'est un fait. Donc, l'idée de l'immunité collective a un peu fait long feu, parce qu'aujourd'hui, on ne pense pas qu'on pourra bloquer... l'immunité collective, c'est d'arriver à bloquer toute émergence d'épidémie sur un territoire parce qu'une grande partie de la population est immunisée. Et on pense que ce ne sera pas possible aujourd'hui avec ce coronavirus. L'autre chose, pour répondre exactement à votre question, on sait très bien que Delta était beaucoup plus contagieux. Il est 50% plus contagieux que Alpha. Et Alpha lui-même était 50% plus contagieux que les précédents.
Mais pas en plus revanche, pathogène, on est d'accord Antoine Flao, pas plus pathogène cependant.
Alors, Delta, si. Les Britanniques ont montré que Delta était deux fois plus pathogène, au sens où il y avait deux fois plus de risques d'hospitalisation. Mmh. Mais heureusement, Delta est contrecarré par la vaccination et par l'immunité. C'est-à-dire qu'il est plus pathogène, mais il est 90% moins pathogène grâce à la vaccination. C'est ça qu'il faut voir. Donc c'est pour ça qu'il a l'air moins pathogène. Mais pourquoi on a encore des résurgences? Et par exemple, aux Pays-Bas comme en Autriche, on voit les hôpitaux saturés. Ce sont le plus souvent avec des gens qui se font vacciner. Et la vaccination est très efficace, mais 80 ou 90% d'efficacité, c'est pas 100%. Et il reste malheureusement des gens qui vont avoir une défaillance avec leur vaccination.
Merci beaucoup, Monsieur Flao. Vous restez avec nous, mais subitement, on vous a un petit peu perdu, donc j'espère que la liaison va rester avec nous. Il y a Corentin qui est à Marseille, Guylaine David, et qui saute sur la remarque qu'a fait Antoine Flao à l'instant sur l'aération des salles de classe. Il voudrait savoir si, en la matière, on a progressé, si on a mis en place un certain nombre de choses, ou si on en reste à exactement ce qu'on disait après la première vague, c'est-à-dire nulle part.
Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas très loin, parce qu'en fait, l'équipement des capteurs de CO2, dans les salles de classe ou en purificateur d'air, on est très loin de ce qu'on devrait pouvoir faire depuis le temps qu'on le réclame, parce que ça fait très très longtemps qu'on le réclame. Et Antoine Flao a raison sur ce point de vue-là, parce que il faudrait que toutes les salles de classe soient équipées. Hein. Ouvrir les fenêtres, c'est pas suffisant, et ça crispe un peu quand le ministre nous dit dans ses interventions qu'il faut ouvrir les fenêtres. Oui, quand on peut ouvrir les fenêtres, on a encore beaucoup d'écoles où les fenêtres ne s'ouvrent pas ou s'ouvrent très difficilement et on ne peut pas faire circuler l'air. Donc il faut des capteurs de CO2, il faut des purificateurs d'air. Ils ont prouvé leur efficacité dans certains pays, ils sont très, très bien installés. De ce point de vue-là, le gouvernement a donné une aide aux communes, mais qui visiblement n'est pas suffisante parce que les maires ne s'équipent pas massivement. Certains le font, mais pas de façon massive parce que ça coûte de l'argent, bien sûr.
Carole Zerbi, parce que dans le secondaire, on est exactement dans la même situation que dans le primaire, quant au purificateur d'air.
Oui, tout à fait. On n'a pas du tout de purificateur d'air dans nos salles de classe. On en a peut-être trois équipés sur les 40, un peu plus 50 salles de classe que nous avons dans notre établissement. Donc oui, ça manque. Moi, je voulais aussi sur la difficulté là en ce moment de faire respecter les gestes barrières. Mmh. Là aussi, c'est un problème dans les établissements scolaires. Les élèves ont de plus en plus de mal à mettre le masque en classe.
On les comprend.
Il y en a certains qui refusent. Mmh. Oui, oui. Alors, moi, je leur dis, bien sûr, on en a tous marre de porter un masque. Mais je crois que là, plus que jamais, il faut qu'on soit tous responsables et qu'on porte ce masque pour qu'on en finisse bientôt. Voilà, c'est ça.
Et on est bien d'accord.
Mais là, c'est difficile.
Je peux comprendre chez les enfants que vous avez en face de vous, nous qui sommes tous des adultes ici, quand il a fallu remettre le masque en studio, si vous aviez vu nos têtes. Et effectivement, évidemment que c'est très, très compliqué. Mylène est avec nous. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Merci de me recevoir.
Allez-y, Mylène.
Alors, écoutez, là, on a beaucoup parlé d'école. Moi, je voulais parler d'entreprise.
Allez-y.
Parce qu'effectivement, il y a un nouveau protocole sanitaire pour les entreprises. Malheureusement, moi je suis dans une entreprise où il y a une frilosité au niveau du télétravail, bien que ça ait bien marché lors des précédentes vagues. Et donc, tant que le télétravail ne sera pas obligatoire dans le cadre du protocole sanitaire, je suis persuadée que mon entreprise ne le mettra pas en place. Et je trouve ça un petit peu dommage, d'une part, par rapport à mon entreprise, qui n'anticipe pas, parce que bon, c'est quand même la cinquième vague, on est quand même habitué. Et je trouve que c'est aussi dommage de la part du gouvernement de ne pas, vu à la vitesse à laquelle arrive cette vague, je ne comprends pas pourquoi le télétravail n'est pas déjà mis en place. Moi, je tenais aussi à rajouter que j'ai attrapé le Covid en avril dernier dans mon entreprise. Je l'ai transmis à mon compagnon, à mon enfant de 10 ans qui est asthmatique, qui a été gravement malade, qui a eu une pneumonie, qui était à deux doigts d'être hospitalisé. Et je n'ai absolument pas envie de revivre ce cauchemar. Donc j'aimerais bien que le gouvernement se dépêche pour toutes ces entreprises qui n'ont pas de courage et qui attendent simplement qu'on leur donne un ordre et qui ne prennent aucune initiative.
Merci voilà. Pour votre question, Mylène. Alors évidemment, le gouvernement va pas vous répondre ce soir, mais Antoine Flahaut, moi j'aimerais savoir si vous vous dites, vous, en regardant la vitesse de cette vague-là, si vous vous dites, pour nous comme probablement pour d'autres, parce que personne n'a remis en place un protocole très strict à de rares exceptions près, si vous vous dites, en nous regardant tous, en effet, on ne va pas assez loin, y compris dans le retour au télétravail, y compris dans le retour à certains gestes barrières qu'on a un petit peu... assoupli, etc. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on ne va pas assez loin pour lutter contre cette cinquième vague ?
Oui, je pense malheureusement qu'on ne va pas assez loin. Je pense que Mylène, votre auditrice, a raison à propos du télétravail. Vous savez, le télétravail a deux vertus. La première, c'est qu'il est une forme de confinement. C'est une mesure de confinement, certes légère et souvent appréciée par les salariés. Mais c'est une mesure de confinement au sens où vous restez à la maison et vous n'allez pas voir vos collègues pendant une période critique. Mais le télétravail également allège les transports publics. Vous n'allez pas vous mélanger avec des gens que vous n'avez pas l'habitude de voir. Il y a moins de brassage de virus dans la communauté grâce au télétravail. Donc c'est vrai que le télétravail est un grand avantage. Par ailleurs, je pense toujours à nouveau à la ventilation. Si on avait des règles et des normes, s'il était interdit de donner cours dans une classe ou de se retrouver dans un open space ou dans une cantine d'entreprise lorsque vous avez plus de 1000 ppm avec des capteurs de CO2, il y a certaines entreprises qui diraient ben moi je suis pas capable de le faire, on est à plus de 1000 ppm, ben on est en télétravail. Donc je pense que oui, on n'en fait pas assez, on ne prend pas assez en compte toute la prévention contre les transmissions dans cette vague épidémique dans toute l'Europe d'ailleurs.
Question récurrente, Antoine Flahaut, parce que ça reviendra forcément avec cette vague qui touche effectivement, vous l'avez dit, principalement les enfants, en tout cas qui est très exponentielle pour les enfants. Pourquoi, une fois de plus, demande Alexandre de Paris, dans certains pays, on vaccine les 5-11 ans et ne le fait-on toujours pas en France ? Pourquoi ne le fait-on toujours pas en France ?
Alors, la vaccination des 5-11 ans, il faut qu'elle soit homologuée d'abord par l'Agence européenne du médicament. Les pays qui peuvent avoir exercé une sorte de droit d'urgence et décider avant même l'homologation de le faire. Une fois que le vaccin est homologué, là, on pourrait prendre les devants. Moi, je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas bénéficier les enfants de cette vaccination. Le problème du Covid chez l'enfant n'est pas tellement, dans la plupart des cas, l'hospitalisation ou le décès. On le sait bien, les enfants font des formes le plus souvent bénigne. Le problème, c'est le Covid long chez l'enfant. Il y a des formes de Covid long chez l'enfant qui sont invalidantes sur leur scolarité également. Bon, et puis il y a aussi un problème collectif, c'est-à-dire qu'on voit bien que les enfants sont plus souvent malades quand ils ne sont pas vaccinés et du coup sont porteurs du virus dans leur communauté, chez leurs proches, mais aussi ils ferment les classes, ils sont à l'origine de fermetures de classes. Donc la vaccination des enfants réglerait pas tous les problèmes d'un coup de baguette magique, mais réduirait le risque de transmission chez l'enfant.
Est-ce qu'on en parle, Guylaine David, de ça, souvent, dans les réunions chez vous, à l'Éducation nationale ? Est-ce qu'on se repose la question ?
Non, alors c'est vrai que c'est pas un sujet qui est beaucoup abordé par le ministère. On avait une réunion sanitaire la semaine dernière, on n'en a pas parlé. Il se retranche surtout sur les décisions du ministère de la Santé. Et le ministre ne met pas beaucoup d'enthousiasme Haussmann, il est interviewé la semaine dernière sur cette question de la vaccination, hein, mais c'est vrai que beaucoup d'enfants font des formes asymptomatiques, donc ça paraît, ça passe inaperçu, mais beaucoup d'enfants sont touchés, et c'est vrai qu'on a de plus en plus de cas d'enfants qui font des Covid longs. On a des remontées, hein, de parents qui nous disent ça. Donc c'est vrai que pour pouvoir faire la vaccination des 5-11 ans, il va falloir prendre le temps de faire de la pédagogie auprès des parents, et il va falloir que le ministère commence à en parler. Je pense qu'Olivier Véran avait parlé début d'année 2022, donc ça va arriver très très vite. Ouais.
Qu'est-ce qui se passe avec la cantine, Carole Zerbib, par exemple, chez vous? Est-ce que vous êtes revenu à des jauges et des non-face-à-face comme, j'allais dire, à la vieille époque? Où est-ce que vous en êtes?
Eh bien non, parce que le protocole que nous appliquons actuellement ne prévoit pas ce qu'on avait connu lors de la mise en place des protocoles 3 et 4. Donc les élèves mangent les uns à côté des autres sans masque.
Et les petits, c'est pareil, j'imagine.
Oui, c'est pareil, on mélange les groupes, et les municipalités qui à un moment donné avaient embauché des personnels supplémentaires, avaient fait des services supplémentaires, le protocole tel qu'il s'applique maintenant, il n'y a pas besoin de mettre en place ces services supplémentaires. Donc les groupes sont brassés. Ils sont aussi brassés quand il y a des enseignants qui sont absents et non remplacés. Donc
chacun voit fait des efforts là, voilà, dans la salle de classe, et puis paf, voilà, à l'heure de midi, ouais, c'est fini. Oui. Une question pour vous, Antoine Flau, c'est celle de Nicole. Bonsoir, Nicole.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, allez-y.
Oui, j'ai 70 ans, je dois faire ma troisième injection, c'est-à-dire mon deuxième rappel, mais avec le nouveau mutant Omicron, je me demande si c'est encore indiqué, si ça a du sens de faire cette injection.
Merci beaucoup pour votre question rapide, Nicole. Antoine Flau, c'est une question de beaucoup de gens, ça. Est-ce que ça vaut le coup, ou est-ce qu'on attend que les vaccins se soient transformés, eux, pour faire face aux mutants si besoin? Qu'est-ce qu'on fait?
Ah non, ma recommandation, c'est surtout n'attendez pas. Il faut faire cette troisième dose le plus rapidement possible, surtout si vous avez 70 ans, parce que la troisième dose va clore le chapitre de votre vaccination. La vaccination est imparfaite avec deux doses. On s'en est rendu compte. Vraiment, au niveau international, il n'y a pas beaucoup de vaccins au monde qui ont été distribués 3 milliards de fois en si peu de temps. On sait aujourd'hui qu'il faut une troisième dose pour compléter le schéma vaccinal. Donc cette troisième dose, elle est nécessaire. Par ailleurs, ce vaccin, on ne sait pas du tout ce qu'est ce Omicron pour le moment. On ne sait pas si même il est résistant au vaccin. Mais de toute façon, ce ne sera pas noir ou blanc. Hein. Ce ne sera pas vaccin complètement inefficace.
C'est ça.
Donc, seuls les vaccins, les gens bien vaccinés auront probablement une immunité résiduelle contre le nouveau variant. Donc, surtout, il faut se faire vacciner par cette troisième.
Que ce soit très très clair là-dessus, effectivement, donc ça veut dire que potentiellement, on peut descendre en efficacité, je ne sais pas à quel pourcentage, 70, 60, 55, 50%, je ne sais pas, mais on peut descendre en efficacité, mais efficacité zéro, Antoine Flau, ça vous semble impossible?
Oui, c'est très peu probable.
Okay.
Le pari qu'il faut faire aujourd'hui, c'est qu'on va être bien vacciné, et grâce à cela, ceux qui auront eu les trois doses auront une meilleure réponse immunitaire contre les nouveaux variants. Il y en aura d'autres, vous savez, qui vont arriver. Donc oui, peut-être que l'on aura une quatrième dose qui sera en fait contre un variant spécifique, et pourquoi pas contre Omicron. Mais pour l'instant, on n'en est pas là, même si les laboratoires planchent sur cette option, mais si jamais on a une quatrième dose, ce sera après la troisième, c'est-à-dire que après avoir eu une consolidation vaccinale, on aura éventuellement un rappel.
Antoine Flau, on a déjà posé la question tout à l'heure en première heure au professeur Cohen, mais je voudrais vous la reposer. Est-ce que c'est parce qu'on sent monter cette musique, elle nous vient du G7, elle vient de l'ONU, elle vient de beaucoup d'endroits, est-ce que c'est parce que nous, pays occidentaux, sommes dans l'incapacité de donner plus de doses que des variants comme celui-ci émergent, ou est-ce qu'il faut décorréler ça?
Non, je pense que c'est toujours assez plurifactoriel de penser que c'est juste parce que, par exemple, l'Afrique du Sud, c'est le pays d'Afrique qui est le plus vacciné parmi les pays africains. Il est certes moins vacciné.
Voilà, autour de 24%, c'est pas beaucoup. Mais enfin,
mais non, il est moins vacciné.
Mais plus que d'autres, on est d'accord avec ça.
Rappelez-vous que l'OMS avait dit on aimerait qu'il y ait 20% de la planète qui soit vaccinée.
C'est vrai.
Ils ont atteint cette cible. Si on avait eu, je dirais, une gestion uniquement globale par l'OMS, on aurait tous 20%. 100% et on serait dans cette situation-là. Non, il y a d'autres facteurs aussi en Afrique du Sud. Je pense que la question que vous posez est extrêmement importante et qu'il va falloir l'adresser. Comment faire pour qu'il y ait plus d'équité dans la répartition des vaccins de la planète? Mais c'est pas en prenant la troisième dose de Nicole que l'on va vacciner. Mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. Et donc, je pense qu'il y a une épidémie de VIH, hein, de virus d'immunodéficience humaine, du sida, qui est beaucoup plus prévalente en Afrique du Sud et qui a probablement contribué aussi à l'émergence de ce type de variant.
Et est-ce que vous diriez également, parce que ça aussi c'est une musique qui monte et c'est une musique qui semble légitime, que, y compris pour accélérer l'acceptabilité dans certains pays, il faut maintenant lâcher les brevets, effectivement, et que chacun puisse fabriquer son vaccin? Ce serait la seule manière pour que tout le monde, personne n'ait de problème de dose ou que ce soit, et peut-être de ramener une meilleure acceptabilité. Est-ce qu'il y a une autre solution que de se dire maintenant il faut lâcher les brevets?
Ah oui, si vous me lancez là-dessus, je vais tout
vous
à fait...
Je ne vous lance pas parce qu'il est 57, mais je voulais quand même vous poser la question.
Oui, non seulement il faut lâcher les brevets, mais il faut lâcher ce qu'on appelle le transfert de technologie. Oui. Il faut qu'on ait des usines qui produisent des biens publics mondiaux essentiels, des médicaments essentiels, mais aussi des vaccins essentiels et des diagnostics essentiels dans tous les pays du monde, et cela doit être abordable, à un prix abordable. Donc il faut non seulement lâcher les brevets, mais aussi apporter le transfert de la technologie et les usines qui permettent de fabriquer ces produits de santé.
Une dernière question, je vais vous la poser à toutes les trois, c'est Frédéric, rapidement, Antoine Flau, on a vraiment quelques secondes, qui nous demande les précautions à prendre ou pas pour les fêtes de fin d'année. Est-ce que rapidement vous diriez bis repetitas par rapport à l'année dernière, c'est-à-dire on fait super attention, on fait attention à la jauge aussi, parce que ce sera à ce moment-là que la cinquième vague sera à son pic?
Oui, jauge, masque, capteur de CO2 et purificateur d'air, ça coûte pas très cher et ça peut purifier bien l'atmosphère pour pouvoir recevoir sa famille en plus grande sécurité.
Guylaine David, est-ce que ça veut dire qu'on a annulé un certain... On sait déjà qu'on va annuler un certain nombre de choses dans les écoles, ce qui se passe en général, au moment des fêtes, avec les enfants, avec les parents, etc. On le sait déjà, ça?
Ah oui,
on l'a déjà anticipé.
Il y a des choses qui vont forcément ne pas avoir lieu là d'ici la fin d'année. Et puis on sent qu'avec le nombre de cas, on va avoir un enseignement très dégradé et une école qui va vivre pendant 3 semaines là en mode très dégradé, parce que les cas vont se multiplier. Et malheureusement, il y a des cas qui vont passer à travers les mailles du filet parce qu'ils ne seront pas retestés. Et qui seront forcément contaminants. Donc il y a beaucoup d'inquiétudes.
Encore 3 grosses semaines, effectivement, avant les vacances de Noël. Merci vraiment, merci à tous et merci de vos nombreuses questions.